France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quoi de neuf à droite? Alors que la campagne pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre s'achève, on posera la question de savoir s'il y a vraiment des nouveautés dans ce que proposent les sept candidats à la candidature. On s'arrêtera sur les différences entre chacun et on se demandera aussi si ce qui les rassemble n'est pas plus important que ce qui les sépare. On tentera également d'esquisser les différents scénarios possibles pour dimanche et la semaine prochaine en se demandant notamment dans quelle mesure les électeurs de gauche et du FN, ceux que certains appellent les infiltrés, pourraient interférer sur le scrutin. On se demandera aussi ce qu'il faut penser des sondages qui ont accompagné toute cette campagne. Pour en parler à nos côtés, le politologue Thomas Guénolé, auteur entre autres de La mondialisation malheureuse et du Petit guide du mensonge en politique, c'est chez First Edition. Avec nous également Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro, et Karine Bécard qui suit le parti Les Républicains pour la rédaction de France Inter. Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, est restée avec nous. Pour les interpeller par écrit, franceinter.fr ou les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral, appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le Standard avec Georges qui nous appelle de Caen. Bonsoir Georges, bienvenue à vous.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Oui, je vous remercie. Vous avez articulé votre émission « Quoi de neuf à gauche ?»
À droite,
pardon, mais vous auriez pu ajouter « Et à gauche, avec Hollande, Valls et Macron.
Bon, » ça c'est pour plus tard. Hein.
C'est pour, oui, mais enfin, ça aurait pu se faire en même temps. Ben, j'ai sous les yeux le journal Ouest France d'aujourd'hui. Il y a toute une page là avec les programmes des candidats. C'est le plus grand quotidien régional de France, vous savez, c'est celui qui a le monopole de la presse dans tout le Grand Ouest. Ils développent, mais ils disent tous la même chose. Ah, il y avait des détails. Est-ce que c'est 100 milliards? Est-ce que c'est 88? Est-ce que c'est 90? Donc, immédiatement, réduction d'impôts. Qui veut dire réduction d'impôts, pas pour les pauvres, puisqu'ils se proposent certains d'augmenter la TVA de 2 points.
Donc pour vous, Georges, pas grand-chose de nouveau, c'est
non,
ça?
Non, rien de nouveau. Et tout ce qu'ils développent là, c'est tout ce que les Américains ont refusé en ne votant pas pour Hillary Clinton, qui a perdu 6 millions de voix et qui a fait le succès de Trump.
Alors ça, on verra, Georges, si vous le voulez bien. En tout cas, pour vous, pas grand-chose de nouveau. Je propose qu'on passe la parole aussi à India, qui, elle, nous appelle du Vaucluse, et qui a, je crois, une position pas très différente. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir à tous. Ben, comme vous dites, quoi de nouveau? Rien. Finalement, on prend les mêmes et on recommence. Et voilà, ils étaient là il y a 5 ans, ils ont tous eu des responsabilités. On nous fait croire là au dernier moment que Simon serait un homme, comment dire, sincère et qui dit la vérité, etc. On le monte en épingle, enfin, disons qu'on le fait monter dans la plupart des médias privés, je ne sais pas pour quelle raison. On oublie que Fillon, il a un programme ultra-libéral, d'ailleurs il se réclame du thatchérisme, hein, je crois. En plus, il est soutenu par des ultra-conservateurs, donc il va remettre en cause tout ce que les homosexuels ont acquis ces dernières années, parce qu'il est soutenu par les anti-avortements, etc. Et ça, il n'y a personne qui en parle dans les médias, même pas vous. Et moi, je voudrais savoir ce qu'il y a de neuf, rien.
Alors,
voilà, il ne faut pas nous prendre pour des idiots, parce que j'ai l'impression que nous, les Français, on est comme des... Enfin, on est amnésiques, quoi. Le réveil sera dur si c'est lui qui gagne. D'ailleurs, même les autres, c'est pareil. Mais bon, on peut voir qu'avec certains, il y aura peut-être un peu de tempérance par rapport à ce monsieur Fillon-là, qu'on nous sort comme ça, qu'on monte en épingle.
Voilà, merci, India.
Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Deux premiers appels, effectivement, deux auditeurs qui trouvent qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Qui veut commencer peut-être à leur répondre sur le fait de savoir s'il y a quelque chose de nouveau, Guillaume Tabar du Figaro?
J'ai surtout le sentiment que Georges et India, ce qu'ils reprochent aux candidats de la droite, finalement, c'est d'être de droite. Qu'ils aient un programme libéral en économie, c'est pas surprenant. Et c'est pas non plus totalement une nouveauté. Je veux dire que bien sûr que la droite n'a pas toujours été libérale en économie. Loin de là, et en tout cas, elle a souvent été moins au pouvoir qu'elle ne l'a été dans l'opposition. Mais voilà, il y a une évolution globale et qui ne concerne pas d'ailleurs que la droite. Aujourd'hui, la gauche, le Parti Socialiste, est aussi sur des positions économiques qui sont plus libéral aujourd'hui qu'il n'était il y a 10 ans. Je pense qu'il y a une évolution globale du personnel politique sur ces questions économiques. Voilà. Ensuite, que sur les questions de société, de sécurité, d'immigration, etc. Oui, il y a aussi des positions qui soient dans la tradition de la vision de la droite. Ça n'est pas surprenant. Moi, je trouve ce qui est nouveau pour répondre à la question, c'est que finalement, c'est la première fois que ce débat a eu lieu sur la place publique.
À droite, c'est une révolution, hein ?
Oui, c'était, oui, oui.
Une primaire. Ah oui, c'est pas du tout dans l'esprit du Parti des Républicains.
C'est pas dans l'habitude, alors c'est pas totalement
même
nouveau.
Débattre entre eux est nouveau. Le simple fait de débattre entre eux au lieu de se fracasser à coups de batte, c'est vraiment nouveau.
Thomas Guénolé.
Oui, pardon, excusez-moi. D'abord, sur la question, est-ce qu'il s'agit de libéraux ? Moi, je conteste ça formellement, parce que quand vous lisez Adam Smith dans La Richesse des Nations, il y a tout un passage où il vous explique que l'entente permanente entre les employeurs pour maintenir les salaires bas est un scandale, et il est anormal que, quand les ouvriers ensuite se liguent pour exiger une augmentation de leur salaire, on leur envoie la police. C'est pas un syndicaliste d'Air France ou un militant CGT contre la loi travail qui vous dit ça. C'est Adam Smith dans La Richesse des Nations, le papa de la fameuse main invisible. Ensuite, sur les différences entre les candidats, effectivement, je voudrais dire aux auditeurs qui viennent de s'exprimer, moi, après avoir lu les programmes, je ne suis pas d'accord avec eux. François Fillon, c'est le plus radical de tous dans le thatchérisme à la française. Donc, effectivement, moins d'État en tant qu'actionnaire, moins d'État en tant que régulateur, du droit du travail en tout cas, moins d'État en tant que protecteur et moins d'État en tant que masse salariale des fonctionnaires ou protection sociale. Et puis, c'est le plus rétrograde envers les minorités. C'est-à-dire qu'il vous dit que envers la minorité musulmane, il vous dit pas qu'on a un problème de... Il vous dit on n'a pas un problème de laïcité, on a un problème avec l'islam, et il vous dit, sur les minorités LGBT, je reviendrai sur un certain nombre de nouveaux droits pour les minorités LGBT. Je fais très court, je vous le jure. Sur Juppé et sur Sarko, pour résumer les différences pour les gens. Alain Juppé, c'est du Thatcher aussi sur l'économie, mais moins puissant que François Fillon. Et sur le reste, il est conservateur. Ça veut juste dire que sur toutes les minorités musulmanes, minorités LGBT, il veut juste ne toucher à rien. Et Nicolas Sarkozy, lui, sa particularité, en économie, il fait beaucoup plus de l'antifiscal. Donc c'est proche du discours de Poujade dans les années 50, en réalité. Et il est beaucoup plus anti-immigration dans une rhétorique ou anti-minorité issue de l'immigration récente. C'est-à-dire qu'il fait du Le Pen sur le non-économique. J'insiste là-dessus. Sur le non-économique seulement, il fait du Le Pen.
Non, je réagissais juste parce qu'il y avait deux questions, en fait. Il y a quad neuf, et puis est-ce qu'il y a des différences entre eux? Là, vous avez répondu un petit peu aux différences entre eux. Sur le quad neuf...
Moi, j'ai envie de revenir sur le quad neuf. L'impression globale qu'on a au départ, quand on commence à lire les programmes des uns et des autres, on parle de quoi? Des 35 heures, plutôt des 39 heures, de la TVA, faut-elle l'augmenter ou pas, des impôts... On a l'impression d'avoir toujours les mêmes curseurs, en fait, qui reviennent. On a l'impression que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans... Voilà, on se dit c'est la même musique, donc franchement non, rien de neuf. Et en même temps, cette droite, me semble-t-il, n'a jamais été aussi libérale. Et ça, c'est totalement neuf. C'est-à-dire que cette fois-ci, elle donne le sentiment qu'elle s'attaque vraiment à des tabous. Cette fois-ci, elle dit on va revenir aux 35 heures. On va les supprimer, on va revenir aux 39 heures. On va supprimer vraiment l'ISF. Et jamais, en fait, la droite, je trouve, n'avait été aussi claire sur ces propositions-là. Et ça, en ça, c'est parfaitement neuf, je trouve.
Laurence Parisot.
Je pense qu'il n'y a pas de grande nouveauté. Mais je pense aussi que ce n'était pas possible dans le cadre d'une primaire, où il s'agissait tout d'abord de s'adresser à son camp et dans une logique de compétition, mais tout en sachant qu'il ne fallait surtout pas déchirer la famille. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de grande nouveauté, ce qui ne veut pas dire que le candidat ou la candidate, mais je crains que ce soit plutôt un candidat qui sera désigné à l'issue du deuxième tour de la primaire, ça ne l'empêchera pas d'avoir peut-être de vraies nouveautés et un vrai renouvellement avec des concepts nouveaux pour la campagne pour l'élection présidentielle. Mais je voudrais ajouter une chose. Il me semble qu'il y a une évidence, c'est qu'ils ont tiré tous, alors certains, tous à leur manière, donc il y a quelques nuances, mais ils ont tiré les leçons de ce qu'ils n'avaient pas pu achever lors du mandat de Nicolas Sarkozy. Et ils insistent tous sur des sujets pour lesquels ils ont le sentiment qu'il faut aller dans l'approfondissement ou dans l'achèvement de ce qui avait été commencé.
Mais c'est un peu facile ça quand même, non ?
Non, je ne dirais pas que c'est facile, c'est le minimum. C'est tirer la conclusion que sur la question de la durée du travail, ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'était déjà reconnaître une forme de défaillance de leur part. Alors aujourd'hui, je considère qu'il y a tout ce qu'il faut grâce à la loi de Myriam El Khomri sur la question de la durée du travail. un dernier mot. Aujourd'hui, on dit que François Fillon est thatchérien. Je pense qu'on a totalement oublié.
C'est lui qui se revendique de l'héritage
de
Margaret
Thatcher. Oui, parce que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il est prêt à vraiment faire des réformes en profondeur, ce qui n'a pas été le cas suffisamment, en tout cas ces dernières années. Mais on a complètement oublié ce qu'était le programme de Margaret Thatcher, qui était un programme très violent, très dur, notamment à l'égard du syndicalisme. Et je ne crois pas que François Fillon soit dans cette logique-là, parce qu'il est issu quand même d'une tradition, si ce n'est gaulliste, en tout cas séguiniste, dans laquelle il y a une dimension sociale qui reste assez forte.
Alors on va repartir au standard dans un instant, retrouver Yves, mais Guillaume Tabar, vous souhaitiez réagir. Moi j'avais envie de vous demander pourquoi d'après vous François Fillon est remonté de cette façon ces dernières semaines.
Si vous voulez, je voudrais juste répondre à ce qui me paraît être des caricatures de la part de Thomas Guénolé sur les questions de ce qu'il appelle les minorités.
On va avoir un problème.
En ce qui concerne l'islam, bon, dire qu'il y aurait une sorte de chasse aux musulmans qui serait préparée de la part de certains candidats et de la part de François Fillon.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non mais c'est absurde de dire que tous les candidats sont sur un centre de problème posé par des formes plus radicales d'un islamisme politique, en parfait accord, et ça m'a mis d'ailleurs, qu'un Bernard Cazeneuve ou un Manuel Valls sur ces questions-là. Il n'y a pas de discours spécifique qui viserait la communauté musulmane. Ensuite, en ce qui concerne les homosexuels, vous parlez de remise en cause des droits des homosexuels. Le seul candidat qui prévoit de corriger un petit aspect de la loi Taubira, c'est François Fillon. Il l'a dit, il l'a redit, il ne revient pas ni sur le mariage, ni sur l'adoption, mais sur les règles de l'affiliation. C'est un point qui est technique. Au sein de l'électorat de droite, il y a une proportion. Alors, est-ce qu'elle est minoritaire ou pas, ou majoritaire, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est importante, qui aurait souhaité une abrogation pure et simple
elle
de la loi de l'Autobureau.
Elle est minoritaire, même au sein de l'électorat de droite.
Elle n'est pas 0%. Or, de tous les candidats de droite, aucun ne fait ça. Bon, donc, c'est-à-dire qu'une petite retouche, c'est pas sembler vouloir remettre en cause des droits acquis.
Thomas Guénolé.
Alors, pour nos auditeurs qui sont fans de rhétorique, la technique utilisée par Guillaume à l'instant s'appelle la rhétorique de l'homme de paille. Ça consiste à m'imputer des propos que je n'ai pas tenus pour ensuite leur porter la contradiction. En l'occurrence, j'ai dit que François Fillon est rétrograde, au sens strict, sur les droits de la minorité LGBT. À partir du moment où vous retirez des droits qu'ils avaient préalablement à la minorité LGBT, au sens strict et d'un strict point de vue logique et du sens des mots en français, vous êtes rétrograde. Vous n'êtes pas forcément radicalement rétrograde, mais vous êtes rétrograde. Ensuite, sur la question de la minorité musulmane, je n'ai pas dit qu'il y aurait chasse aux musulmans écrite dans le programme de tel ou tel. J'ai simplement dit que, dans le cas de François Fillon, et dans le cas d'autres candidats d'ailleurs, si on veut développer, il y a l'idée que, non, c'est pas un problème de laïcité, c'est un problème avec l'islam. Et il n'a pas parlé de l'islamisme, il a parlé de l'islam, Guillaume. Et donc, moi je dis qu'il y a effectivement dans ce pays, dans cette campagne, un climat de diabolisation croissante, de diabolisation de la minorité musulmane. Mais Manuel Valls n'est pas une référence. En matière de pacification, de dialogue avec la minorité musulmane.
Alors je vais vous mettre tous d'accord, on va partir au standard. C'est Yves qui va s'exprimer maintenant. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Moi, mon point de vue sur l'évolution de la droite, elle est liée à la situation politique d'une gauche, entre guillemets, au pouvoir, qui a mené d'une part une politique très libérale, d'autre part une politique très autoritaire. Vous avez parlé tout à l'heure des syndicalistes d'Air France ou d'ailleurs, les manifestations contre la loi travail, où le pouvoir ne sait pas écouter les travailleurs qui manifestent très massivement avec... On connaît la question. Tout ça qui sont des critères de droite, libéralisme, autoritarisme. À côté de ça, les électeurs de gauche ne vont certainement pas voter pour le Parti Socialiste. Tout le monde pense effectivement qu'il sera disqualifié dès le premier tour. Et donc finalement, la droite, elle se décomplexe totalement et elle se dit allons-y franchement à droite, puisque le PS est à droite, allons franchement à droite, d'autant plus qu'au deuxième tour, elle va sans doute avoir à lutter contre le Front National. Donc ça va être une sorte de concours de beauté de droite. Et donc moi je suis très inquiet et je pense que les Français, à moins d'être effectivement ultra-libéral et ultra-autoritaire, les Français ont toute inquiétude à avoir de cette élection présidentielle.
Et vous aviez une question sinon, à part cette remarque Yves ?
Non, c'était simplement une remarque. Que devient la droite en France ? Comment évolue-t-elle ? Elle se droitise, cette droite. Et donc, ma question, c'est plutôt du désespoir qu'une question que j'exprime.
Alors, Laurence Parisot souhaite vous répondre.
Oui, parce que il y a quelque chose que je partage en tout cas un peu avec cet auditeur. Ce qui est commun à tous les candidats de la droite, tels qu'ils se sont présentés dans les débats notamment, c'est une volonté de fonctionner d'une manière très autoritaire, très hiérarchique, du haut vers le bas. Et on le voit quand ils sont tous en train d'expliquer que soit ils vont faire des ordonnances, soit il va y avoir 10 mesures très rapidement, soit en 6 mois le programme va être fait. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste, et ça montre en tout cas une volonté d'afficher quelque chose de très dur. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne façon de préparer le pays aux réformes. On peut avoir envie de réformer en profondeur. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut, des tabous à lever et qu'il faut modifier sérieusement un certain nombre de domaines, dont l'économie, mais aussi dans l'éducation. Mais si on le fait sans la concertation, sans le dialogue, inévitablement, ce sera un échec. C'est l'histoire du CPE, et ça, c'est une caractéristique de la droite, c'est de penser que, allez, il faut y aller, coûte que coûte, et ça marchera.
Thomas Guénolé.
D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur le processus de réforme. C'est-à-dire que quand vous essayez de réformer à la Schlag, vous vous préparez des mouvements sociaux absolument monstrueux. On peut souhaiter gouverner comme ça, ça peut être une méthode qu'on souhaite. Moi, je partage votre idée que ce n'est pas en soi, du point de vue des valeurs, en particulier si on est libéral, d'ailleurs.
Absolument.
Bah, ça suppose un sens du dialogue, de la concertation. Maintenant, pour répondre à ce que disait l'auditeur à l'instant. Je voudrais répéter que la droite, sous sa forme actuelle, n'est pas libérale. Quand on est libéral, alors j'ai déjà expliqué tout à l'heure Adam Smith, mais je voudrais ajouter quelque chose. Quand on est libéral, on défend les libertés publiques et donc on ne vote pas la loi renseignement, qui nous met tous sur écoute. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est un programme de démantèlement des réalisations du Conseil national de la Résistance, qui était dirigé par le général de Gaulle, en termes de protection sociale, en termes de sécurité sociale et en termes de droits et de statuts d'un certain nombre de catégories de la population. J'ajoute que ce n'est pas non plus une volonté de modernité ou d'idées neuves. Effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? C'était ça la question. Pardon, mais deux exemples. La retraite à taux plein va devoir être prise à 70 ans, ce qui est un sacré recul en réalité, et non pas une progression par rapport à l'évolution du droit du travail dans notre histoire. Et j'ai vérifié, les propositions de François Fillon sur la durée légale du temps de travail, c'est revenir à la législation de mémoire de 1919. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. C'est retour vers le futur, c'est Marty McFly qui prend sa bagnole pour revenir 30 ans, voire un siècle en arrière.
Guillaume Tabar.
Alors, je veux bien être rétrograde, mais, prendre comme horizon indépassable le programme économique conçu par le Conseil national de résistance en 1945, ça me paraît
contre 1919, c'est pas mal.
Oui, non mais voilà, bon. On invoque la résistance, je veux dire que d'abord c'est un patrimoine commun des Français. Bon, ensuite, parce qu'il y a eu ce moment exceptionnel de l'histoire de France où il a fallu, après la guerre, reconstruire le pays, le rassembler autour d'un certain nombre de valeurs et d'idées fortes, dire que du coup, dès que on ferait une privatisation, on remettrait en cause le Conseil national de la Résistance, dès qu'on toucherait à telle ou telle législation, ce serait trahir les idées de la Résistance, ça me paraît un peu court. Le monde a un peu évolué, je pense que Georges Bidault et tous ceux qui étaient au CNR en 45, aujourd'hui, ne s'interdiraient pas de réfléchir aux thérapies nouvelles en matière économique, sociale, etc.
Karine Bécart, c'est
à elle. Je voudrais dire juste une petite chose et répondre notamment à Madame Parizeau. Je crois qu'effectivement, ce que propose en fait la droite est très hiérarchique. En tout cas, ça part du haut effectivement et ça va vers le bas. Je crois qu'en fait, la droite est victime, et la gauche aussi, mais la gauche est au pouvoir. Les choses ne se posent pas de la même façon, mais la droite est victime de finalement son quinquennat. Elle est obligée de se justifier sur « cette fois-ci, je vous promets, je le fais ».
Et elle est victime de la droitisation de la gauche aussi.
Oui. Et donc, les mots sont extrêmement forts. Il y a la volonté de dire, je vous promets, cette fois-ci, vraiment, vous pouvez me faire confiance. Donc, ils sont un peu obligés d'en passer par là. C'est le sentiment qui se dégage quand on va dans les meetings.
Vous avez raison. À partir du moment où c'est la même équipe que celle du quinquennat dont on parle et qui se présente, ils sont obligés d'avoir cette attitude-là. Ce qui est tout à fait dommage, c'est que pendant cette période assez longue d'opposition dans laquelle la droite s'est trouvée, elle n'a pas donné le sentiment vraiment de, je le disais déjà tout à l'heure, de renouveler son corpus idéologique et de se poser des questions et essayer d'apporter quelque chose aux grandes questions du monde. Dans l'heure précédente, nous évoquions ce phénomène qui déchire les sociétés, qui est à l'origine de l'élection de Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement d'un côté les personnes aisées et les personnes plus modestes. C'est pas simplement des riches et des plus pauvres. C'est des ultra-riches et des populations entières qui stagnent. Ça, c'est quand même suffisamment important pour inciter à une réflexion économique, sociale et même philosophique.
Jackie de Nîmes est en ligne, il nous appelle, il est... Vous êtes à l'antenne, Jackie, bonsoir.
Oui, bonsoir France Inter, merci de me donner la parole, bravo pour vos émissions. Bonjour vos invités, je vous suis gré d'avoir constaté que le CICE avait sauvé nombre d'entreprises. Je suis chef d'entreprise depuis 30 ans et toute petite entreprise, mais enfin effectivement ça a sauvé beaucoup de mes collègues.
Concernant
Madame Parizeau qui a fait effectivement cette remarque sur le CICE et bien d'autres qui ont sauvé beaucoup d'entreprises parce qu'on était très mal engagé en 2012. Bien, je suis frappé par le manque en tout cas de propositions en matière d'écologie globalement et de grands projets en la matière qui permettraient de créer emplois et richesses en économisant du pétrole, donc des importations, et de bien sûr de baisser le taux de CO2, et c'est des engagements qui avec la COP21 et la COP22 sont devenus majeurs. On a tourné hier autour des thèmes encore de plus en plus droitiers. Effectivement, on en arrive à des positions limites, Madame Thatcher, donc c'est quand même assez incroyable. Il faut se rappeler de ce que ça a été les années Thatcher, mais enfin bon, les programmes de certains y vont direct. Et on tape sur le travail, on tape sur beaucoup de choses. Alors, on sait, et je parle sous le jugement de Madame Parizeau, mais on sait que la croissance en 2030 ne sera plus que de 1% au niveau mondial environ. 2030-2040, la croissance c'est une période, et ensuite on devient adulte, et la croissance va bientôt s'arrêter. Et on ne parle que de ça, et on ne parle que des problèmes d'immigration, etc. Alors que l'écologie c'est notre principal problème. Alors que fait-on donc? Au lieu d'augmenter les temps de travail, on le diminue et on le partage. On sait qu'on n'aura plus jamais autant de travail.
Jackie.
Et on sait qu'il faut baisser le CO2. Quels sont les grands projets comme isoler les bâtiments?
Merci Jackie. C'est une remarque que je crois qu'on pourrait tous faire. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie pendant cette primaire de la droite.
Un peu pendant le dernier débat, si je peux me permettre. Il y a eu... quand même, alors il y a consensus, me semble-t-il, il y a consensus, me semble-t-il, entre les candidats. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, pour qu'ils sont globalement tous pro-nucléaire, soit pour la stabilisation, ou soit en tout cas en pourcentage du total que ça baisse parce qu'on développe le reste, mais en tout cas de ne fermer une centrale nucléaire que quand on peut pas faire autrement, et de développer en complément les énergies renouvelables. Donc il me semble qu'on n'est pas non plus dans l'absence totale de propositions. En revanche, en dehors du sujet énergétique, j'observe qu'on est assez peu disert à droite sur tous les autres sujets. Et il est dommage, après tout, la droite peut parfaitement avoir des positions écologistes conformes à ses valeurs par ailleurs. C'est dommage.
Il y a une autre chose qui m'a frappée. Je m'éloigne un peu de l'écologie, mais je partage ce qui vient d'être dit. Il me semble, dites-moi si je me trompe, mais que personne n'a jamais parlé de culture. On a parlé d'éducation, de la maîtrise de la langue, et c'est très important.
Culture, banlieue, tout ça, c'est des sujets qui sont complètement
oubliés. Banlieue un peu, mais culture, jamais.
Ouais.
Et je trouve que la droite se caricature elle-même, comme si c'était un monopole de la gauche. Il y a beaucoup de gens à droite qui sont très attachés à tout ce que la France peut faire dans ce domaine-là. C'est assez regrettable. Or, moi j'ai la conviction qu'on ne peut pas donner un nouvel élan à un pays s'il n'y a pas aussi une dimension intellectuelle et culturelle.
Et s'il n'y a pas un récit global, Guillaume Tabar.
Oui, tout à fait. Mais, enfin, je suis d'accord avec vous. En même temps, ouais, on dit on n'a pas parlé de culture, on n'a pas parlé de banlieue. C'est vrai, mais je pense surtout que le problème, c'est qu'on peut toujours faire une liste. On peut faire une liste de 50 sujets, on trouvera toujours les 10 autres dont on n'a pas parlé. Je pense que ce qui a manqué, ce qui manque dans les programmes des différents candidats de la droite, c'est précisément, j'allais dire, une vision un peu globale du monde, de la société, du pays, au sein duquel on pourrait ensuite arrimer un certain nombre de questions. Bon, voilà. Et c'est vrai que d'une campagne présidentielle, on attend ça aussi. Parce qu'un programme, bah, ça se fait, ça se trouve. C'est un premier débat où
chacun égrenait voilà, ses mesures. Égrenait,
et puis le débat était au niveau du curseur.
Alors, disons les choses. Est-ce que c'est 63 ça ans, ne fait pas rêver hein, qu'on soit de droite du centre. Ça ne fait pas franchement rêver.
François Hollande qui avait parlé de réenchanter le rêve français, ça lui a pas forcément réussi. Mais au-delà, parce que c'est vrai que c'est l'éternel débat. Il faut proposer un horizon. En même temps, il ne faut pas paraître décalé de la réalité. Mais en tout cas, cette capacité que devraient avoir les politiques à avoir une vision un peu globale. C'est vrai que la France, enfin, moi, je crois que l'on peut parler de l'identité de la France, de son identité, mais précisément, on peut en parler si on la resitue dans un monde qui fait quand même, je crois, 5 ou 6 milliards d'habitants aujourd'hui, et que, contrairement à ce qu'a dit le monsieur, moi, je ne crois pas que ce soit la fin de la croissance. C'est peut-être la fin de la croissance dans nos sociétés, mais on voit que dans le reste du monde, en Asie aujourd'hui, en Afrique demain, heureusement, la croissance, elle sera là. Donc la question, c'est comment on participe à cette évolution globale du monde.
Karine Bécart, puis Thomas Guénolé.
Oui, un petit mot quand même, parce que on est quand même sur le thème de est-ce que c'est de la politique un peu neuve, etc. Je trouve que justement dans la manière dont cette campagne a été menée, on a vraiment eu l'impression d'assister à de la vieille politique. C'est-à-dire on vient avec ces, 30, 50, 70 ou 80 propositions et on les égrène en permanence. Je pense que le plus caricatural sur ce registre, c'est vraiment Nicolas Sarkozy quand on va à un de ses meetings. C'est-à-dire, en général, on a un petit laïus introductif, enfin un discours introductif, et puis après, derrière, vraiment, il égrène, en fait, il dit, voilà, on va faire comme ça. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Tabar, c'est-à-dire, on n'a jamais de vision, on n'a jamais l'imagination de la société vers laquelle on a envie de nous emmener. Et je trouve, mais là, je vais nous emmener ailleurs, que, un, ça a été la force de Nathalie Kosciusko-Morizet un petit peu dans cette campagne, et surtout, je trouve que c'est la force d'un Emmanuel Macron en ce moment.
Ah, merci beaucoup, Karine, d'amener le sujet sur la table. On y vient dans une seconde, le temps que Thomas Guénolé.
J'attends un peu donc sur Macron.
Vous pouvez réagir. Puis après, on va quand même parler parce que c'est peut-être l'événement centriste de la semaine.
Centre droit, j'en sais rien. Je garde Macron pour plus tard dans ce cas-là, mais sur la culture, moi, je trouve dommage que la droite, en fait, renonce à une tradition qu'elle a depuis un demi-siècle. Elle a vraiment un bilan dont elle n'a pas à rougir. Je veux dire, la droite au pouvoir sur la culture, c'est Malraux, c'est Pompidou, et j'ajouterais, au risque de surprendre, c'est Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, on l'a oublié, il a eu toute une politique d'accès de moins en moins cher, voire gratuit, des gosses, quand les parents amènent leurs gosses, au musée. Il avait une politique d'accès à la culture, sous un angle patrimonial certes, mais d'accès à la culture tout de même. Donc c'est dommage, effectivement, d'avoir laissé ça complètement en déshérence, alors qu'il y avait matière à aller chercher dans les fondamentaux de la droite, qui fait souvent un complexe d'infériorité là-dessus, à mon avis, à tort. Ensuite, sur le rêve, moi, ce qui me frappe vraiment, vraiment, c'est l'effondrement de ce qu'a pu être Nicolas Sarkozy. Le Nicolas Sarkozy de 2007, même quand vous étiez de gauche, ça pouvait vous tenter, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une locomotive, il y avait une dynamique, il y avait une créativité, il y avait une capacité à sortir des sentiers battus. Et puis, le Nicolas Sarkozy de la campagne de 2012, et maintenant celui de cette primaire, je suis désolé, mais comparé à ce Tony Blair de droite, en termes d'inventivité, de rénovation de la communication, de génie même dans la capacité à avoir un programme innovant, c'était très inattendu. Qu'est-ce qui va encore nous sortir ce matin? Là, non, là, on est vraiment dans le fait de faire les plus vieilles tambouilles disponibles dans quelque chose qui nous a fait 50 fois et qui est dans les aspects les moins créatifs de ce qu'il pouvait avoir. Donc c'est une vraie tristesse de voir Nicolas Sarkozy devenir si peu après avoir été tellement.
Il est déjà 19h50, on repart vite au standard, retrouver David. Bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Seine-Maritime.
Je vous appelle de Seine-Maritime. Alors, je tiens d'abord à préciser que je suis un sympathisant de gauche. Et je m'interroge sur le titre de votre émission « Quoi de neuf à droite ?» Parce que finalement, les 7 candidats sont tous issus du même sérail, ont les mêmes idées. Mais il y en a pourtant 3 qui n'ont pas eu trop de responsabilités. Ils sont très en retard dans les sondages. Donc finalement, est-ce que les Français sont prêts pour la nouveauté? C'est plutôt ça ma question.
Bonne question. Peut-être pourrions-nous prendre aussi Samuel qui est en ligne. Est-ce qu'il est au standard? Il n'est pas là. On va l'avoir dans quelques minutes parce qu'il va nous parler lui également du centre. On a l'impression que cette primaire a vraiment été celle de la droite, Guillaume Tabar. Le centre s'est un peu dissous dans l'aventure?
Le centre, il est présent d'abord au travers d'Alain Juppé, puisque l'UDI en tant que parti, François Bayrou en tant que personnalité, ont fait le choix de soutenir Alain Juppé, en tout cas de se reconnaître dans son programme. Qu'est-ce qu'on appelle le centre? Quand on regarde le programme lui-même de l'UDI, c'est un programme, on va dire, de droite. C'est-à-dire que ça fait maintenant 20 ans, 30 ans que droite et centre travaillent ensemble, ont des programmes communs, au point d'ailleurs que l'UMP est né de cette convergence très forte entre ce qui était autrefois l'UDF et ce qui était autrefois
Emmanuel Macron, vous le mettez clairement à gauche?
Emmanuel Macron, je le mets ailleurs. C'est vrai qu'il apporte quelque chose d'inédit dans le paysage politique. Quoi? On aurait peut-être encore un peu de mal à le définir. Ça peut ça peut être la base de quelque chose qui se construise, ça peut être quelque chose qui disparaisse dans le temps de la campagne. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on dit c'est de la com, c'est de la bulle, etc. On voit bien ça d'ingrédients, de communication, d'éléments de langage. Mais malgré tout, personne qui est inconnu il y a 2 ans arrive à ce niveau-là et s'installe dans cette main s'il y a strictement rien. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose en Emmanuel Macron. À quoi maintenant sera à lui de le démontrer dans les semaines qui viennent.
Karine Bécard.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Tabar. Je trouve que tout a été quand même parfaitement fabriqué, parfaitement construit. On fait pas ça complètement au hasard.
Minuté aussi, hein.
Oui, minuté. Enfin, il fait ça très bien. Il est très doué. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, cet homme ne faisait pas de politique. Et il a un sens de la répartie politique, il a un sens du timing politique. Alors voilà, soit il est vraiment très très doué, soit il est fait pour faire de la politique et il faut qu'il se dépêche de se lancer complètement. Et...
Alors trois personnes quand même assez admiratives. Tout à l'heure on avait aussi Laurence Parisot qui nous disait du bien d'Emmanuel Macron. Thomas Gagnolet, vous êtes un petit peu seul sur ce coup-là.
Dans le pays, je ne crois pas. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est une escroquerie. Ce n'est pas un profil neuf, contrairement à ce qu'il prétend, parce que quand on a fait tel grand lycée, puis Sciences Po, puis ENA, puis haut fonctionnaire, puis cabinet ministériel, puis bombardé ministre, c'est le profil d'un Fabius, d'un Villepin, d'un Chirac, etc. Ça n'est pas nouveau, c'est une escroquerie.
Les on n'a idées... pas dit qu'il était neuf, là. Hein.
Oui. Parle de la posture générale d'Emmanuel Macron. D'accord. Je ne dis pas que les personnes qui trouvent le plus intéressant sont des escrocs. Je dis qu'Emmanuel Macron, en tant que démarche politique, relève de l'escroquerie. J'explique juste pourquoi. Idée neuve. Pareil, non, ce n'est pas vrai. Ces idées, ce sont grosso modo celles de Raymond Barre en matière de programme économique. La confiance prioritaire au marché, la confiance prioritaire à l'initiative privée pour s'en sortir, c'est le discours global de Raymond Barre quand il était Premier ministre. Et l'espace central pour dépasser les clivages sur ce libéralisme intégral, c'est démocratie française de Giscard, c'est 2 Français sur 3 de Giscard, oui. C'était il y a 40 ans. Oui. Donc non, ça n'est pas des idées neuves. On peut considérer que ce sont des idées intéressantes, mais ce ne sont pas des idées nouvelles. Courage en politique, non, parce qu'Emmanuel Macron, il a attendu que François Hollande soit à terre pour lui mettre un couteau dans le dos. Je ne trouve pas ça courageux, et même sa communication n'est pas neuve, parce que, excusez-moi, je ne vois pas en quoi les instruments qu'il a déployés pour l'instant relèvent d'une innovation fondamentale dans la communication politique. La plupart des instruments qu'il utilise sont utilisés en politique depuis au moins une dizaine d'années. Donc non, je ne suis pas d'accord, et je trouve que le traitement médiatique accordé à Emmanuel Macron... Je ne dis pas qu'il est illégitime, c'est un phénomène intéressant, de par ce, quand même, un certain nombre de raisons, ne serait-ce que le côté électron libre qui est intéressant, mais on a déjà eu cette discussion avec Guillaume par ailleurs, je pense que le traitement est disproportionné. Je ne dis pas qu'il est illégitime, mais je dis qu'il est disproportionné. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur Emmanuel Macron. D'autres candidats, en fait, ont au moins la même innovation sur d'autres formes et au moins les mêmes niveaux d'intention de vote, ils n'ont pas le même traitement. Et je pense que ça n'est pas normal.
Laurence Parisot.
Non, je pense que Emmanuel Macron est un phénomène tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait nouveau. Je ne sais pas s'il pourra réussir, mais c'est nouveau pour 2 raisons. La première, c'est que c'est encore la patronne de l'IFOP pendant quelque temps qui tient à vous le dire. C'est que quand on l'a vu arriver dans nos mesures, dans nos enquêtes, on l'a vu arriver tout de suite très haut. Et ça nous a surpris. Et ce qui continue à nous surprendre, c'est qu'il reste très haut. Et aujourd'hui, dans une intention de vote que l'IFOP a rendue publique, il a 16% d'intention de vote, c'est-à-dire à la fois devant François Hollande ou devant François Bayrou. Donc ça, c'est une chose. Ce n'est pas un phénomène qui est en train de se dégonfler. La deuxième chose qui est quand même, Thomas Guénolet, tout à fait inédite, c'est qu'il est à ce niveau sans parti politique. C'est pas simplement.
Mais avec 75 couvertures de magazines en un temps record.
Et oui, mais on ne suscite pas autant de couvertures de magazines s'il n'y a pas quelque chose qui relève à la fois du fond, parce qu'il dit des choses tout à fait intéressantes et intelligentes, et qui relève aussi de la personnalité. Or, un homme politique ou une femme politique qu'on voudrait voir à des responsabilités importantes, c'est un besoin aussi de leadership, de charisme, et il a ça. Alors je ne suis pas sûre, je crois que les institutions telles qu'elles sont organisées sous la Ve République ne favorisent pas la victoire d'un tel profil, mais il est déjà arrivé à un stade tout à fait inédit.
Merci beaucoup Laurence Parisot, il est déjà pratiquement 19h57, on va faire un dernier tour de table. J'avais parié qu'Emmanuel Macron serait au programme des nouveautés de la droite, mais effectivement c'est ce qui s'est passé ce soir.
C'est très bien résumé.
Voilà. Guillaume Tabar, un mot quand même sur cette primaire. Vous pensez que ça va se jouer sur quoi, dimanche.
Sur le profil des candidats, plus que sur les idées, les mesures, etc., c'est sur la capacité à incarner la fonction. C'est une réponse à la faiblesse de la fonction telle que François Hollande l'incarnait, et il y a une attente d'incarnation forte aujourd'hui.
Thomas Guignolet.
Oui, alors moi je voudrais juste dire que les sondages, à ce propos-là, les sondages, ça ne sert pas à prédire le résultat de l'élection, c'est marqué sur la notice. Donc,
c'est vrai.
D'avance, n'est-ce pas?
Oui, merci.
Je parle, n'est-ce pas?
Oui.
Ça sert à mesurer les tendances, ça sert à mesurer qui monte et qui baisse, mais ça ne sert pas à prédire le résultat. Donc tous ceux qui diront, quel que soit le résultat...
Non, mais on n'a pas dit ça.
Non, mais pas vous. Oui. Mais pas vous particulièrement, je veux dire. Mais c'est juste que de dire, j'aimerais que cette campagne permette non pas d'aggraver le sondage bashing, en quelque sorte, le procès des sondages, mais simplement que les journalistes, les analystes, les commentateurs apprennent à utiliser les sondages non pas comme des oracles, car ça n'en est pas, mais comme des instruments de mesure des dynamiques uniquement et pas des résultats. Et ça, ce serait déjà formidable.
Karine Bécar, sur quoi ça va se jouer dimanche?
Je suis assez d'accord sur la personnalité, mais c'était l'objet, c'était le but des débats télévisés. Les débats télévisés, ça a permis effectivement d'égrener les mesures, mais ce sont de formidables révélateurs de personnalité. Ce qu'on a vu, c'était ça. Et donc, c'est peut-être ce qui a permis de révéler François Fillon, d'ailleurs. On a redécouvert le Premier ministre.
Un tout petit mot de la fin, Laurence Parizeau, mais vraiment tout petit, hein.
Je pense que ça va se jouer entre le socle très solide, très fort de Nicolas Sarkozy, d'une part, et celui que les électeurs de droite considéreront comme le plus capable de battre Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume Tabar, Thomas Guénolet, Laurence Parizeau, Karine Bécard. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission.